Louez et remerciez le Seigneur. Vous remarquez déjà, par ma voix, le frère Rousse disait qu'elle va s'améliorer, elle sera mieux. Il y a un frère qui m'a tout à l'heure donné le conseil, la prochaine fois, de ne pas prévoir 5 jours pour les réunions, mais au plus 3 jours. Et vous pouvez vous imaginer comment est-ce que ça a été selon le désir de mon cœur. Pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Non, pas bouger la tête de droite à gauche, mais d'en haut en bas. Oui. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour chaque heure, pour chaque parole. Elle devient toujours plus précieuse pour nous. Nous ressentons que ça va dans les profondeurs, dans la profondeur, et que tous nous en recevons plus que nous l'avions reçu depuis des années passées. Et ça devient toujours plus clair et nous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons parler du service prophétique. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Même si je parle comme ça? Bon, je ne dois pas élever la voix, non. Bon, merci. Je voulais seulement m'en assurer, mais si quelqu'un a le penchant de dormir, alors je serais obligé d'avoir le penchant d'élever la voix. Donc, cela ne doit pas être qu'on dorme. Donc, nous voulons passer à ce sujet spécial qui concerne le service prophétique. Et nous voulons avec cela commencer avec 2 Chroniques chapitre 20, la deuxième partie du verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20b, la deuxième partie. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes et vous vaincrez. Aujourd'hui, nous avons terminé avec cette parole de Matthieu 12, que le Seigneur a victorieusement exécuté son œuvre. Et nous savons que nous savons qu'il a accompli toute parole qui est sortie de la bouche d'un prophète et que toutes les Écritures se sont accomplies en lui. Et ici, il est dit, donc de la bouche des prophètes, et que toutes les Écritures se sont accomplies en lui. Ici, il est dit, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que nous voulons faire. Et à cela, il est encore dit, c'est ainsi que vous serez sécurisés. Et ça, nous voulons aussi l'être. Nous voulons être sécurisés. Nous voulons avoir de l'assurance. Il ne doit pas avoir de point d'interrogation derrière ce que nous croyons et ce que nous enseignons. Il doit y avoir une certitude divine dans tout ce que nous enseignons et tout ce que nous croyons. Et pour autant qu'on puisse le dire, on n'a rien ajouté à la parole et non plus rien retranché de la parole. Nous ne l'avons pas interprété, mais par révélation, nous l'avons reçue. Elle nous a été accordée. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. Il relit la deuxième partie du verset 20 de 2 Chroniques 20. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes. Et ça aussi, c'est très important. Pas si quelqu'un vient et dit « Je suis prophète ». Sérieusement. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont passées pour vous. Mais moi, j'ai rencontré tout un nombre de personnes qui réellement étaient convaincues de leur personne d'être prophète ou même prophétesse. Donc, cette dernière chose est encore pire que la première. Donc, prophétesse est encore plus grave que prophète. Mais si c'est vraiment ainsi, on pourra examiner cette personne par la parole de Dieu. Un vrai prophète prêchera la parole de Dieu avec véracité et il sera un prophète parole. Donc, ne faites pas confiance à chaque prophète, mais faites confiance à ses prophètes. On doit être sûr que c'est Dieu qui a pris le choix, qui a fait un choix. Et nous l'avons entendu hier soir de la bouche de frère Branham, alors qu'il disait la première chose à laquelle je peux me rappeler, c'est d'avoir reçu une vision. C'est d'une vision. Une vision que j'ai vue, que j'ai reçue. Dès sa naissance, depuis sa naissance, cet homme était déjà un prophète de Dieu. Déjà un prophète à sa naissance. À 7 ans, il avait déjà dit que le pont de l'Ohio allait s'écrouler alors qu'il n'y avait pas de pont. Il n'a été construit que 8 ans plus tard et s'est écroulé ensuite. Il était un prophète de Dieu depuis le ventre de sa mère, déterminé à être un prophète pour les nations. C'est ainsi que c'est écrit aussi dans le prophète Jérémie au 1er chapitre. Depuis le ventre de ta mère, dès le ventre de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai déterminé à être prophète pour les nations. Donc, pas seulement un prophète tel qu'il existe, il peut être parmi les cinq services dans l'Église, mais un prophète d'une importance historique pour le salut. Et ça, c'est aussi une différence. Donc, nous voulons être sûrs que si nous faisons confiance à un prophète, que ce soit un prophète confirmé par Dieu, envoyé par Dieu, légitimé par Dieu. Et je crois que ça, nous pouvons tous de tout notre cœur le dire. Nous en sommes convaincus que frère Branham était un vrai prophète du Dieu Tout-Puissant, a été un vrai prophète du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que Dieu l'a envoyé, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il y a un but historique de salut lié à son envoi, n'est-ce pas? Et nous croyons que ce but atteindra son but culminant. Et que toute la parole de Dieu exécutera la volonté pour laquelle elle a été envoyée. Produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et je voudrais, maintenant, passons à notre considération de la parole. Je voudrais vous embarrasser de temps en temps dans cette réunion par la parole du Seigneur, mais seulement pour un petit moment, pour plus tard, tout de suite, n'est-ce pas, vous aider et vous servir pour que nous puissions mieux comprendre des choses. Bon, justement, nous avons dit que Dieu a envoyé un prophète. Vous savez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé dans son Fils. Et ça, c'est le verset biblique que tous utilisent, qui ne peuvent pas croire que Dieu a envoyé un prophète dans notre temps. Ils disent tout simplement, Dieu a envoyé tous les prophètes et qu'à la fin, dans ces derniers temps, il a parlé dans son Fils. Amen. C'était fini. Et alors, plus rien ne suit, seulement eux. C'est eux que Dieu a appelés, c'est-à-dire ceux qui rejettent ce que Dieu a envoyé. Mais eux, ils prétendent avoir été établis par Dieu. Et ils rejettent celui qui a été établi par Dieu. Vous comprenez cela? Les gens renversent tout sur la tête. Nous lisons de Luc, chapitre 16. Et aussi encore, nous allons devoir nous laisser accorder la grâce, recevoir la grâce du Seigneur pour voir les différents contextes et les classer dans l'ordre biblique et les comprendre. Dans Luc, chapitre 16, verset 16. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est proclamé par le message du salut. Et chacun use de violence pour y entrer. Donc ici, il est écrit, la loi et les prophètes sont allés jusqu'à Jean, sont venus jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est proclamé par le message du salut. Comment est-ce que nous devons maintenant comprendre cela? Très simple. les prophètes de l'Ancien Testament, avec Malachie, ont annoncé tout le dessein du salut de Dieu, et c'est en Christ que ces prophéties sont devenues une réalité. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste l'a fait aussi. Et c'est avec lui que le royaume de Dieu a commencé. Mais est-ce que nous pouvons pour cela mettre de côté l'Ancien Testament? Est-ce que nous pouvons mettre de côté les prophètes? Cela sera difficile. Cela ne sera pas possible. Cela n'ira pas parce que c'est le contraire qui devrait être, justement, que nous puissions justement classer dans l'ordre biblique, comprendre quel objectif, quel sens ont les prophètes et aussi la loi. Je viens de mentionner déjà Hébreux 1, Dieu a parlé et par les prophètes et à la fin il s'est révélé dans le Fils. Maintenant, lisons dans Luc, le chapitre 24, Luc, chapitre 24, à partir du verset 27. Ici, il est écrit, puis il commença par Moïse et tous les prophètes, Luc 24, verset 27, et leur exposa toutes les Écritures qui le concernaient. Donc, Jésus n'a pas mis de côté les prophètes de l'Ancien Testament. Bien au contraire, il a lu et il a prouvé à ses disciples en leur montrant que tout ce que les prophètes ont prophétisé s'est accompli. Allons dans Actes apôtres, le chapitre 28, verset 23. Actes apôtres, chapitre 28, verset 23. Ici, il est écrit de Paul, Actes apôtres 28, verset 23. Ils fixèrent donc un jour pour lui et se rassemblèrent dans sa maison en plus grand nombre encore. Puis, il leur présenta le royaume de Dieu depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir et en rendit témoignage cherchant à les gagner à Jésus suivant à la fois la loi prophétique et les prophètes. Les apôtres n'ont pas eu à l'époque de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, comme canon, c'est-à-dire comme cordeau, comme ouvrage, comme nous l'avons aujourd'hui, a été constitué par Athanase. Jusqu'alors, c'était des épîtres qui passaient d'église en église et qui étaient lus ainsi. Fondamentalement, tous les hommes de Dieu, dans les premières 300 années du Nouveau Testament, les hommes de Dieu ont utilisé seulement l'Ancien Testament pour les prédications. Je l'ai souvent déjà dit, si aujourd'hui, on donnait aux prédicateurs d'aujourd'hui, ou bien les évangélistes d'aujourd'hui, on leur donnait le même matériel à leur disposition, c'est-à-dire l'Ancien Testament, on leur demandait de prêcher seulement avec l'Ancien Testament, ils ne pourraient même pas tenir une seule prédication. Parce qu'ils ne sauront pas, ils ne sauront pas où commencer, et comment est-ce que ça a continué? Nous lisons de Matthieu, le chapitre 5, 17 et 18. Matthieu, chapitre 5, verset 17 et verset 18. Ici, il est écrit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ou pour annuler. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans les livres de Moïse, que ce soit dans Roi ou bien dans Juge, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans Jérémie ou bien dans Ézéchiel, dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. Ici, il nous est dit ce que nous avons à annoncer, ce que nous avons à prêcher. Je vais vous le lire. Quand ta Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, en tant que serviteur, pour témoigner de ce qui devait être annoncé comme une révélation. Ça, nous devons le comprendre. Ça, nous devons le comprendre. Il y avait quelque chose dans la loi écrite aussi du temps de Moïse qui plus tard, comme une révélation, devait être annoncée. Par exemple, si quelqu'un vient à vous et vous dit que au sabbat, vous avez seulement le droit de marcher un mile. Alors, vous pouvez lui dire, bon, ok, donc, on va marcher 2 miles. Aller-retour. Pourquoi pas? Mais il s'agissait pas de ça du tout. Il s'agit des parties dans la loi qui étaient censées être une révélation, une illumination, un éclaircissement. Il s'agit des images, des symboles de l'Ancien Testament qui ensuite aboutissent dans leur réalité dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas ici de mettre en pratique la loi de Moïse dans toutes ses ordonnances et autre chose. Non, mais il s'agissait de sonder les Écritures pour voir où est-ce que l'Esprit de Dieu a donné des indications sur l'histoire future du salut. Continuons à lire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, ici aussi Paul se réfère à ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 20 et 21. Chers frères, ne vous montrez pas comme des enfants en jugement. Non. Dans la méchanceté, vous devez être des enfants. Mais en ce qui concerne le jugement, montrez-vous comme des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes de langue étrangère et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Maintenant, nous avons ici une expression, c'est-à-dire l'expression « loi », et ce qui est ensuite cité n'est pas écrit dans la loi, mais dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, versets 11 et 12. Alors, comment nous devons maintenant classer cela dans l'ordre biblique? Ici, nous est dit, il est écrit dans la loi, et ensuite, le verset auquel il se réfère n'est pas écrit dans la Torah, n'est pas écrit dans les 5 livres de Moïse, n'est pas écrit dans ce que nous avons, comme ce que nous désignons loi, mais c'est écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, versets 11 et 12, dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Et ça, nous le retrouvons ici répété dans le Nouveau Testament, que toujours de nouveau, des pensées de l'Ancien Testament sont désignées comme la loi. Et nous allons encore lire d'autres précieux versets bibliques dans 1 Corinthiens chapitre 14 et maintenant le verset 34. Ici, Paul écrit de nouveau une parole étrange et pour offenser personne, Je vais lire la dernière partie du verset 34 dans 1 Corinthiens 14 parce que nous n'avons pas l'intention de blesser quelqu'un. Mais ici, il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 34, « Mais elles doivent se soumettre comme le prescrit la loi. » La deuxième partie du verset 34. « Mais si vous cherchez dans la loi, où est-ce que cela est écrit, ce que Paul cite ici, vous ne trouverez pas cela dans la loi, vous ne trouverez pas ce verset. Cela nous ramène avant la loi. Et ce verset est écrit dans Genèse 3, verset 16, avant que la loi soit donnée, c'est-à-dire dans Genèse 3, verset 16. Et la loi a été donnée dans Exode chapitre 20. Mais le tout forme une unité. Et avec droit, alors on pouvait se référer à cela et appeler cela la loi. Allons dans Romains chapitre 7. Nous pouvons ici lire le verset 1, Romains chapitre 7, 1, et puis ensuite verset 7. Ou bien ne savez-vous pas, mes frères, car je m'adresse à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne lie l'homme, un moment, que la loi ne lie l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ensuite, le verset 7. Qu'en résulte-t-il donc? La loi est-elle un péché? Jamais. Mais je n'aurais pas connu le péché si ce n'était par la loi. Dieu avait besoin d'une mesure. Il avait besoin d'une main pour nous convaincre à juste titre, puis nous condamner, donc en raison de notre transgression, nous convaincre, puis nous condamner pour notre transgression. C'est pour ça que la loi est venue pour nous saisir dans nos transgressions, pour nous mettre en prison et nous livrer à la condamnation. Mais ensuite vint celui qui a pris sur lui cette condamnation et même porter la malédiction de la loi et qui a apporté tout pour nous libérer. Et pour cela, nous lisons dans Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, verset 1, verset 2 maintenant. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous pourrions maintenant passer à l'autre domaine. Dans la loi de l'esprit, par laquelle nous avons été pris de la loi de la chair et ainsi pouvoir servir Dieu comme cela lui est agréable dans la loi de son esprit. Lisons maintenant dans Romains 13. Romains chapitre 13, verset 8. Oui, Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli par cela la loi. C'est en cela que tout a été résumé, par l'amour pour son prochain. Tout ce que les prophètes, dans tous les psaumes, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit, celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Maintenant, le verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu Donc, une se résume uniformément dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si tu aimes ton frère, tu ne lui voleras pas sa voiture, tu ne lui prendras pas sa femme, tu ne lui vas pas convoiter ce qui lui appartient parce que l'amour te pousse à accomplir ce que Dieu, dans sa parole, demande. Car nous ne sommes pas déliés de la loi. Nous devons accomplir les exigences de la loi. Et pour cela, Dieu nous a donné la possibilité de les pratiquer. Maintenant, passons à la partie prophétique, c'est-à-dire à la partie qui nous concerne, qui concerne ce temps, qui concerne la partie prophétique. Aussi, cette partie prophétique est dans la parole de Dieu bien ordonnée, bien classée. Mais je vous dis, malgré tout, c'est difficile. N'est-ce pas de classer tout dans l'ordre biblique, si ce n'est que Dieu nous aide à le faire. Et nous sommes convaincus que par sa grâce, il nous aidera. Commençons avec la promesse du prophète Malachi, comme dans le dernier chapitre, le dernier verset. Ici, il est écrit. Certaines Bibles ont 4 chapitres, d'autres ont 3 chapitres. C'est peut-être raison que je dis dans les derniers chapitres, les derniers versets. En français, c'est le chapitre 4, verset 5. Sachez bien, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachi 4, verset 5. Verset 6. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leur père. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse. Et si vous demandiez aux scribes, ils vous donneraient tous la même réponse que cela, ce verset est déjà accompli depuis longtemps. C'était Jean-Baptiste. Mais laissez-moi vous lire le verset. Les versets qui se réfèrent à Jean-Baptiste dans Malachi 3, verset 1. Sachez que j'enverrai mon ange pour préparer le chemin devant moi. Malachi 3, verset 1. Et tout à coup viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et l'ange de l'Alliance que vous désirez ardemment. Que vous désirez ardemment viendra sans faute. Ainsi parle le Seigneur des armées. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 1, dans les premiers 3 versets. Là, il est fait référence à Jean-Baptiste et aussi à son service. Et aussi les 2 versets sont cités, Malachi 3, verset 1 et Ésaïe 40. Verset 3 dans Marc, chapitre 1. Ici, le même prophète, par prophétie, nous a laissé savoir que le prophète Élie viendrait avant le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel. Depuis le service de Jean-Baptiste, ça va faire bientôt 2000 ans qu'ils sont passés. Et le jour terrible et redoutable de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Nous vivons encore dans le jour du salut. C'est encore le jour de la grâce. Donc, la promesse, ou bien alors la prophétie, autrefois, du temps de Jean-Baptiste, n'a pas pu encore s'accomplir. Maintenant, nous allons montrer ça très clairement dans le Nouveau Testament et aussi apporter la preuve que le Seigneur a promis d'envoyer des prophètes et des enseignants. Nous avons en partie déjà traité ce sujet et nous allons encore le toucher rapidement. Allons dans, je veux dire maintenant, dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Ça, c'est la relation avec l'expérience sur la montagne de transfiguration. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et c'est cet événement puissant de la transfiguration sur la montagne de transfiguration nous est décrite. Et comme vous pouvez vous le rappeler, Moïse et Élie, là-bas sur la montagne, ont été aussi là-bas sur la montagne, ont apparu là-bas sur la montagne. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 17, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Et ensuite, nous allons au verset 9. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de l'apparition que vous avez vue jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui demandèrent alors, comment donc les scribes peuvent-ils dire qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Donc les scribes ont connu la parole. Peut-être dans ce cas un peu mieux qu'un Pierre qui était pêcheur de poissons. Ou bien alors d'autres qui n'avaient pas lu la parole et qui ne connaissaient pas les Écritures comme les scribes. Ce qui est étrange, c'est seulement de voir que les scribes n'avaient pas été enseignés de Dieu. Et ceux qui n'étaient pas des scribes ont été enseignés par Dieu. Et c'est en cela que jusqu'à aujourd'hui, les choses, n'ont pas beaucoup changé. Mais les scribes connaissaient la Bible. Et ils prétendaient que Élie devait premièrement venir. Vous savez, alors que Jésus était accroché sur la croix et a dit « Élie, Élie, lama sabachthani ». Qu'est-ce qui est écrit ensuite? Ils ont dit « Nous voulons voir si Élie viendra ». Vous connaissez tous la Bible? Bien sûr. Ils ont mal compris. Ils savaient qu'il était écrit cela qui devait venir, mais ils n'ont pas pu le classer dans l'ordre. Aujourd'hui, nous avons mieux, nous avons plus facile parce que autrefois les prophéties pour la première venue étaient écrites pour la deuxième venue, pour la troisième venue. Tout était écrit dans la Bible. Comment est-ce que eux, ils pouvaient distinguer ce qui devait s'accomplir quand et dans quel contexte cela s'accomplirait? Mais nous lisons maintenant le verset 11. Il leur dit, Élie va venir. Il leur dit, Élie va venir et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'étape initiale. Amen. Élie va venir et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'étape initiale. À l'état initial. Ça, celui qui connaît la grammaire, il sait que c'est écrit au futur. Élie va venir et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'état initial. Mais ça continue encore plus. Beaucoup veulent déjà s'arrêter au verset 11 et ne pas continuer à lire avec le verset 12, ne plus le lire. Mais nous faisons partie de ceux qui lisent chaque verset, chaque écriture, qui ne peuvent pas mettre de côté, mais qui remercient Dieu de ce qu'il nous a accordé la clarté surtout, qui ne mettent rien de côté. Donc, dans Matthieu 17, verset 12 maintenant. Mais moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ici, le Seigneur dit que Élie va venir, doit venir et va venir, et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'état initial. Une déclaration claire. Et directement après, il dit, mais moi je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. Qu'est-ce qui est vrai alors? Les deux sont vrais. Amen. 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 Non, votre amen n'était pas assez fort. Avec moi, vous pouvez, ne vous dérange pas de dire amen à haute voix, hein, comme les baptistes l'ont fait avec le prédicateur pentecôtiste. D'une manière, je continue à prêcher, même si vous dites amen. Mais je préfère continuer à prêcher quand parfois j'entends des amen, n'est-ce pas? Bon. Jean vint dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais faites attention. Lui-même dit qu'il ne l'était pas. Jean lui-même dit qu'il n'était pas Élie. Alors quoi maintenant? Alors maintenant, là on rentre dans de grands problèmes, n'est-ce pas? Là il y a de grandes difficultés. Chez les théologiens. Pas chez nous. Pas avec nous. Pas avec nous. Pas chez nous. Pas après que le Seigneur ait parlé avec nous. L'évangile de Jean, le chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 19. Ici, il est écrit. Or, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Alors il confessa et déclara ouvertement, je ne suis pas le Christ. À cela nous disons amen. Ça c'est vrai, il n'a pas été Christ, le Christ. Maintenant le verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Non, alors quoi donc? Le Seigneur dit, Élie est venu et ils ont fait de lui, avec lui ce qu'ils voulaient. Et il se réfère avec cela à Jean-Baptiste dans Matthieu 17, verset 12. Et Jean-Baptiste lui-même, on lui pose la question, es-tu Élie? Et il dit, non, je ne le suis point. Et si ensuite, oui, merci frère, Kugunmelech, c'était très bien. Et ici ensuite, au verset 23, l'Écriture dit, il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. Amen. L'homme de Dieu connaissait l'Écriture qui se référait à lui et à sa mission, à son service, qui se référait à lui. C'était pas de oui et mais, de tâtonner, de bégayer, mais une réponse claire se référant aux Saintes Écritures. Nous continuons à lire Luc chapitre 1. Et vous remarquez déjà comment est-ce que ces choses-là étaient éparpillées dans les Écritures, mais comment est-ce que c'est bien de pouvoir les rassembler ensemble et les lire? Dans Luc, chapitre 1, ici, il est parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Et ici, la chose suivante est dite de lui. Dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 15. Luc 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Il ramènera au Seigneur, leur Dieu, un grand nombre de fils d'Israël. Et c'est lui qui le précédera dans l'Esprit et la puissance d'Élie, dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants du cœur des enfants ramenés au Père, ici, il n'en est plus parlé. Il est seulement parlé de la première partie, de la prophétie du prophète Malachie, qui autrefois s'est référé à son service. C'est cette partie-là qui a été citée par l'ange et la deuxième partie n'a pas été citée. Ensuite, il est écrit « Et les désobéissants à l'esprit des justes afin de rassembler un peuple bien préparé pour le Seigneur. » C'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait par son service. Il a frayé, préparé le chemin de l'Éternel. Il a aplani ce qui était élevé, redressé ce qui était tordu. Que pensez-vous, comment est-ce que ça a été pour tous ces dignitaires d'autrefois, religieux qui étaient vus parmi le peuple, mais qui ne voulaient pas se laisser baptiser, mais qui étaient venus pour le mettre à l'épreuve. Et il a dit déjà, l'axe est mis à la racine des arbres. Ne pensez pas que vous échapperez du jugement à venir. Il l'a abaissé ce qui était élevé et ce qui était abaissé, il a élevé. Pourquoi il a relevé? Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Et elle a été manifestée. Car c'est ainsi que c'est écrit que toutes les l'extrémité de la terre verront la gloire de Dieu. Bon, nous reconnaissons alors que dans la prophétie biblique, tout a été prononcé très exactement, mais que de la même manière, il faut que tout soit classé justement, correctement dans l'ordre biblique pour connaître les différents contextes et les comprendre. Maintenant, nous lisons dans Actes des Apôtres, le deuxième chapitre, et aussi tout de suite dans le chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 2, ici nous trouvons la première prédication de Pierre. Et cela pourra nous étonner de ce que, en un seul souffle, il a cité les deux, le commencement. Il a inclus le commencement et la fin. Il se réfère au prophète Joël. Et je vais vous lire ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos jeunes gens ou jeunes hommes auront des visions et que des vieillards et que vos vieillards recevront des révélations en songe. Des révélations en songe. Oui, même sur mes esclaves serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là afin qu'ils parlent prophétiquement. Je ferai paraître des signes miraculeux dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas. Du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et il arrivera quelque chose. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Vous savez combien dans cette prédication, combien de choses sont contenues? Les fils et les filles, c'est nous. L'Église du Nouveau Testament. Esclaves, serviteurs et servantes, ça c'est Israël. Et ensuite, le soleil et la lune changera en ténèbres. Ça, c'est déjà le jour du Seigneur. Pierre, un homme du Seigneur, dans un seul souffle, a prononcé plusieurs choses. Nous pouvons aujourd'hui les classer dans l'ordre. Avons-nous compris cela? Des fils et les filles, vous qui n'étiez pas un peuple, vous serez appelés fils et filles du Dieu vivant. Nous avons reçu la position de fils. C'est peut-être raison que nous disons Abba Père. Mais quand nous allons dans Apocalypse 7, là, il est écrit, ne détruisez pas la terre jusqu'à que nous ayons scellé sur leur front les esclaves serviteurs de notre Seigneur, de notre Dieu. Alors nous savons exactement que là, dans Apocalypse 7, ça se réfère aux 144 000 d'Israël. Et là aussi, nous pourrions citer beaucoup d'écritures. Mais nous traitons actuellement de la question selon laquelle Dieu enverrait un prophète à la fin du temps de la grâce. Mais dans la dernière partie prophétique de l'histoire du salut, et à ce moment-là, tous les mystères de la parole et du royaume de Dieu seraient révélés. Combien de fois Frère Branham a fait référence à ça. Il savait que c'était le service auquel Dieu l'avait déterminé de révéler les mystères cachés, de les apporter, de les mettre en lumière. Et depuis que cela est arrivé, nous pouvons le voir. Nous ne pouvons donc pas dire qu'avec les prophètes de l'Ancien Testament, tout service prophétique a cessé. Bien sûr, en ce qui concerne les prophéties, oui, il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui prophétisait encore sur le Christ, parce que le Christ était déjà venu. C'est pour cette raison qu'il est écrit de Jean-Baptiste qu'il était plus qu'un prophète, pas plus qu'un homme. Ça, les frères américains l'ont totalement mal compris. Et ils ont trompé le peuple, égaré le peuple. Et là aussi, il faut exactement lire chaque parole telle qu'elle est écrite. Jésus disait, je vous dis, il était plus qu'un prophète. Et c'est ainsi que nous devons aussi respecter cela tel qu'il a dit. Les prophètes, et laissés ainsi, ont prophétisé concernant Christ. Mais Jean lui pouvait dire, il est parmi nous. Il a fait le pont entre la prophétie et son accomplissement. Il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, plus qu'un prophète, il pouvait montrer l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais si maintenant, nous parlons de frère Branham, alors nous devons aussi dire la même chose. Il était plus qu'un prophète dans le sens où il n'a pas seulement parlé des prophéties, mais à montrer et révéler les prophéties dans leur réalité et leur accomplissement. Il les a montrées et révélées. Alléluia! Dans leur accomplissement. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de prophètes qui ont existé. Et aussi dans le Nouveau Testament. Prenez Pierre. Comment est-ce que ils ont eu une vue prophétique concernant les derniers jours, concernant le jour du Seigneur, concernant les temps qui viendront. Mais à la fin des jours, à la fin du temps de la grâce, Dieu a envoyé un homme. Comme hier nous l'avons aussi vu, il était vraiment plus qu'un prophète. le service que la colonne de feu aurait été sur un homme et qu'il servait avec la colonne de feu sur sa tête. Tel que c'était dans le service du Seigneur lui-même. Ça, ce n'était pas le service de Paul, ni le service de Pierre. Ça, c'était le service du Seigneur Jésus lui-même qui, dans notre génération, s'est répété par un homme, un ustensile très simple. Dites-moi, honnêtement, est-ce que Dieu aurait pu trouver un homme plus simple que lui, plus simple que lui, qui serait venu au monde sur cette terre? Vous connaissez son témoignage? C'était pas seulement une maison en bois, mais une maison en bois par laquelle le vent, que ce soit la pluie ou bien la neige, n'est-ce pas, tout traversait la maison. C'est une maison misérable. Mais cet homme ou bien l'enfant qui vint au monde dans cette case, 2-3 heures après sa naissance, la colonne de feu était suspendue sur ce nouveau-né. Et ceux qui étaient présents se sont demandé, qu'est-ce que va devenir cet enfant? Qui est cet enfant? Mais Dieu, lui, le savait. Et nous aussi, nous le savons aujourd'hui aussi. Qui il est? Qui il a été? Loué soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce témoignage puissant. Il est dit de nous, que nous ne prêchons pas, frère Branham. Ça, c'est une très bonne constatation et une très bonne remarque. Parce que si on le prenait comme sujet de notre prédication, ça veut dire que nous serions complètement à côté de la page. Nous ne faisons pas Paul et Pierre l'objet de notre prédication, ou bien Élie, ou Abraham, ou bien Moïse, ou bien l'un des hommes de Dieu. Nous ne les prenons pas comme objet de notre prédication. Nous prêchons Christ, le crucifié, le ressuscité. Mais nous mentionnons de tout notre cœur volontiers ce que Dieu, par ses prophètes, par ses esclaves serviteurs et par ses apôtres, a fait. Ça, c'est une très grande différence. Nous ne mentionnons pas, comme ça, souvent, le nom du prophète que Dieu utilisait d'une manière particulière. Mais, ce que Dieu a fait par lui, ce qui, la parole révélée de Dieu par lui, ça, avec un cœur reconnaissant, nous la portons. Et c'est la grande différence. La parole que Dieu a révélée par lui, beaucoup, n'est-ce pas, veulent avoir parlé de Jean-Baptiste. Et ils ne savent pas les choses pour lesquelles il a été envoyé, quelle a été sa mission. Il s'agit toujours de la mission, du mandat, de l'appel, de la chose principale. En ce qui concerne ces choses, de les classer dans l'ordre biblique, il ne s'agit pas de mettre au centre, qui est en fait la place du Seigneur, un homme de Dieu, que cela soit loin de nous. Les 7 messagers, les 7 anges, étaient dans la main droite du Seigneur. Et parce qu'ils étaient justement entre sa main, donc dans sa main, c'est peut-être raison qu'il a pu d'une manière si puissante les utiliser. Et je suis convaincu de ce que, comme déjà dans l'une des réunions, nous le disions, était aussi tel que c'était ici écrit. Celui qui est prêt à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou pas, venait de Dieu ou pas. Nous avons lu que le Seigneur voulait envoyer le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Je vous lis encore plusieurs écritures dans lesquelles le Seigneur a parlé de ce que il enverra des prophètes et des apôtres aussi dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 11, le verset 49, Luc chapitre 11, verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit aussi, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Donc, personne peut vouloir nous expliquer qu'il n'y a plus de prophètes. Dieu, dans l'Église, a établi des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes. Mais quand il s'agit de l'histoire du salut, alors il a le droit d'envoyer un prophète parole. Donc, un prophète promis dans la Bible pour l'établir sur toute l'Église. Un homme auquel la parole vient, à qui elle est révélée. Et ensuite, en tant que celui qui peut la transmettre à l'Église, la porter à l'Église. Je crois que dans Matthieu 23, là le Seigneur encore le dit, qu'il l'enverra des prophètes et des enseignants. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des enseignants. Donc, nous avons la promesse qu'après le service de Jean-Baptiste, déjà au commencement de l'Église du Nouveau Testament, le Seigneur voulait envoyer des prophètes et des sages, pas des scribes qui sont assis qui étaient assis au pied de Gamaliel, mais des hommes qui sont enseignés de Dieu dans l'Écriture. Car celui à qui l'Écriture est enseignée, il n'ajoute et ne retranche rien à l'Écriture. Et c'est ainsi que je peux sûrement faire cette remarque ici, alors que Frère Branham lui a demandé, ou bien alors, plutôt, quand il lui a été dit que quand les sept sceaux et les sept tonnerres auraient été révélés, ce serait alors quelque chose qui ne serait pas dans la Bible. Et là, Frère Branham dit mot à mot, j'ai tout de suite saisi l'esprit qui a parlé. J'ai pas en ce moment trouvé un mot mieux que ça pour exprimer ce qu'il a dit en anglais. Il dit, j'ai tout de suite saisi l'esprit. J'ai saisi l'esprit qui a parlé, qui a dit ça. Et là, il a donné la réponse. Jamais Dieu fera quelque chose qui serait à l'extérieur de sa parole. Et là, nous restons dans cette déclaration. Combien de fantaisies religieuses existent à ces jours? Des interprétations folles. Et tels que ceux qui écrivent l'horoscope et interprètent ce genre de choses. Et c'est comme ça que dans ce soi-disant message-là, tous ceux qui interprètent ne savent pas qu'ils sont sortis des Écritures. Et en fait, ils ont tourné le dos à la vérité, qui est la parole de Dieu. Parce que ce qui a été dit, ils l'ont mal compris. Et encore moins, ils l'auraient classé correctement dans l'ordre biblique. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un, avec une certaine prédication que Frère Branham a tenue, avez-vous un problème avec ça? Est-ce que quelqu'un doit venir dans votre maison pour vous l'interpréter? Vous avez, exactement comme moi, entendu parler lu sur les sept sceaux, entendu parler de ce qu'il dit sur les sept tonnerres, sur le premier, le deuxième, le troisième pull, et sur les différentes choses, nous l'avons entendu. Mais nous avons la grâce de laisser tout entre les mains de Dieu. Comment est-ce que lui, il accomplira toutes ces choses et fera toutes ces choses. Ça, c'est la grande différence. Nous n'avons pas le droit et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous ne pouvons pas sortir du cadre des Écritures. C'est impossible. Les saintes Écritures sont le témoignage clos de Dieu. Le témoignage de Dieu achevé. Et complètement à la fin, Il est écrit dans Apocalypse, malheur à celui qui ajoutera quelque chose à la parole de la prophétie de ce livre, ou bien quelqu'un qui en retranchera quelque chose. Malheur. Alors que les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Une parole du Seigneur est sortie et il a été dit, n'écris pas ce que les sept tonnerres ont dit, mais scelle-le, n'est-ce pas? N'écris pas ce que les sept tonnerres, je vais vous le lire, je préfère vous le lire, pour que vous puissiez savoir que c'est écrit ainsi. Car il y a des hommes qui disent, nous retenons certaines choses au peuple de Dieu et nous ne disons pas tout. Mais que eux, ils font du théâtre au peuple de Dieu, ça, ils ne le disent pas. Ils jouent du théâtre et ça, ils ne le disent pas. Apocalypse 10, verset 4. Lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'allais l'écrire, mais j'entendus du ciel une voix qui me criait, celle ce que les sept tonnerres ont dit et ne l'écris pas. Je lis encore plus. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Est-ce que les sept tonnerres sont écrites ici? Sont écrits ici dans la parole de la prophétie? J'ai mal entendu. Les sept tonnerres sont écrits? Merci frère. Je souhaiterais que tous montreraient que leurs mains et leurs bras ne sont pas paralysés. Qui est béni? Qui est béni? Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent quoi? Gardent les choses qui y sont écrites. Tout ce qui est écrit, Dieu, dans sa signification, dans son sens, l'a révélé. Je ne crois pas qu'il y aurait encore un point qui existerait, que nous devrions savoir, qui n'aurait pas encore été révélé. Il est écrit que dans les jours où la voix du septième ange retentira, le mystère de Dieu se sera alors accompli, comme il a fidèlement communiqué à qui? À ses esclaves, serviteurs, les prophètes. Donc, il fallait qu'à la fin des jours, un service prophétique existe, soit là, pour que aussi les Écritures soient révélées et trouvent l'accomplissement, telles que elles ont été révélées à ses esclaves, serviteurs, les prophètes. Et à cela, nous venons à cette parole de Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses esclaves serviteurs, les prophètes. Donc, il fallait qu'un prophète de Dieu soit là pour révéler les mystères. Alléluia! Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Mais nous voulons avoir de la crainte devant Dieu et devant la parole révélée, que nous ne ruminions pas comme des scribes, et ensuite en sortir ceci et cela, que ensuite ceci et cela sorte. Non, laissez les choses telles que Dieu les a révélées, n'interprétez rien, mais ayez de la crainte, et acceptez cela ainsi, tel que ça a été révélé, et pour le reste, Dieu lui-même prendra soin, quand le temps sera mûr pour ça. La chose la plus grave qui pourrait nous arriver, c'est de devenir impatient. Et alors ensuite, on gâche tout. Lorsque les amis des tonnerres ont voulu provoquer la venue du Seigneur et qu'ils ont même loué une salle aux frontières belges et néerlandaises avec exactement 120 places, comme dans la chambre haute, pour que aussi tout soit en ordre et crédible comme ils le pensaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés et ils se sont éparpillés dans tout les directions du vent, et c'est comme ça que c'est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a besoin d'un endroit ou bien de déterminer un temps, quand est-ce que le Seigneur reviendra. Quand il reviendra, alors nous le saurons. Et là maintenant, et cela me vient à l'esprit, il y a une chose qui me vient à l'esprit, je dois la dire pour que cela amuse un peu. Il y a une bien-aimée sœur qui avait lu à une dame de la prédication de l'enlèvement, le passage où Frère Branham a dit que la venue du Seigneur aura lieu entre 6h et 9h le matin. Et alors que cette sœur lisait cela à cette dame, alors elle a crié, elle a dit, « Alors donc cela veut dire que je ne serai pas prête parce que je dors habituellement jusqu'à 10h. » Cela devait être ainsi maintenant, n'est-ce pas? Vous savez exactement que je n'appartiens pas à ceux qui prennent les choses de Dieu à la légère, mais comme rapidement, les gens comprennent mal quelque chose. Au lieu de dire, en fait, il y a un décalage d'horaire, et de toute façon, personne ne connaît le jour et l'heure. Mais là aussi, Frère Branham, parfois, a dû faire cette incitation auquel les scribes, n'est-ce pas, se mordent et disent, ah, le prophète a dit, hein. C'est le prophète qui l'a dit, et c'est peut-être certain qu'il a dit pour que justement il puisse sortir, et sinon rien d'autre, il a dit pour qu'il puisse sortir à cela. Cela reste éternellement vrai, tel que les choses sont écrites. Personne connaît le jour et l'heure. C'est ainsi que la parole de Dieu nous le dit. Mais il est aussi écrit que nous devons veiller et prier parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Combien de ceux qui prétendent que le Seigneur est revenu déjà en 63 se sont convertis en 68? Je connais même certains qui se sont convertis en 69, d'autres même en 74, en 74. Et aujourd'hui, ils prétendent que le Seigneur est déjà revenu en 1963. Qu'un homme puisse se représenter, s'imaginer cela. Et ensuite, de tels gens-là se tiennent devant moi et disent, j'ai été enlevé. Non, non, pas comme ça. Pas avec moi. Sobre, restez sobre et clair, et cela jusqu'à les dernières heures. Dans notre vie, vous savez quoi? Plus un enfant de Dieu est, et plus un enfant de Dieu est spirituel, et plus il est sobre et clair, un homme, une personne qui se pense spirituel, mais qui commence à tourner un peu en rond, on peut s'en inquiéter, donc à perdre sens, parce que de telles personnes ont perdu, n'est-ce pas, l'équilibre et la balance. Nous voulons rester sobres et clairs en Dieu, dans les choses terrestres, dans la parole de Dieu, dans tout ce que nous avons à faire, à entreprendre jusqu'à les dernières heures, jusqu'à le dernier jour de notre vie. Car nous ne savons pas, nous devons planifier notre vie jusqu'à la dernière heure, parce que nous ne savons pas combien de temps nous resterons encore sur terre. C'est pour ça que c'est nécessaire de rester sobre et clair, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Et je sais que, de toute manière, le Seigneur a une église sur terre qui ne va jamais s'éloigner de la parole. Bien au contraire, elle restera plus fermement attachée, fondée dans la parole de Dieu. Et il est écrit pour que nos cœurs s'affermissent, ce qui a lieu par la grâce. Donc, c'est une grande grâce. la plus, de recevoir les plus grandes révélations de Dieu et malgré tout rester petit et sobre et effacé. Qu'est-ce que c'était avec frère Branham? Il allait à la chasse. Il était un homme qui allait à la pêche. Il était dans la vie, dans les choses de la vie. J'ai été dans sa maison. J'ai été chez lui. Il a fait la vaisselle après le repas. Et aussi, il a aspiré la maison. Frère Rouge dit, quoi? Oh, mais oui, oui. C'est ainsi. Nous pensons qu'un prophète, c'est un homme avec un long visage et qui est étranger au monde, qui ne rit jamais. Non, toute chose à sa place. Pour les enfants, il était un père. Pour sa femme, un mari. Pour Dieu, un prophète. Pour l'Église, un esclave serviteur. Et chaque domaine est vécu et laissé là à sa place. Que cela soit aussi pour vous amuser à la fin de cette considération sainte de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est sainte. Mais alors que l'un des frères qui croit que William Branham est Jésus-Christ lui-même me disait certaines choses, alors moi aussi j'ai voulu qu'il arrête de parler. Il m'a dit que William Branham a appelé à l'existence ses enfants, aurait appelé à l'existence ses enfants, que ses enfants auraient été le résultat de la parole parlée, qu'il aurait créé ses enfants. Et alors il a ajouté que cela serait un mystère que je ne connais pas encore. Alors moi j'ai eu mieux à lui dire, je dis il y a plusieurs mystère que je ne connais pas. Mais le mystère pour avoir des enfants, ça, je le connais. Il y a des hommes, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des hommes sur terre dont toute sobriété les a quittés. Ils sont devenus fous. Ils n'ont plus les deux pieds sur terre. Que pensez-vous? Comment est-ce que je suis reconnaissant à Dieu pour vous tous? De ce que vous soyez resté, de ce que vous êtes resté sobre et clair dans la parole de Dieu. Et les jeunes gens, je veux leur dire que celui qui veut se marie le plus rapidement possible. Ne soyez pas accablé par cette pensée. Ah, le Seigneur revient bientôt. Mais arrêtez avec cela. Quand il reviendra, il y aura encore le temps. Mais plus le temps pour se marier, justement. Le temps pour se marier, c'est maintenant. Alors, donc, toujours, les choses très proches les unes. Gardez les choses très proches les unes des autres. Restez sobre et clair en toutes choses. Que celui qui veut construire une maison, qu'il le fasse. Mais si vous voulez construire une maison, faites-le, mais ne vous endettez pas. Hein? Vous savez ce que le Seigneur veut nous dire. Il s'agit de la sobriété et de la clarté. Et de rester avec les deux pieds sur terre, mais avec le cœur. Être au ciel. Laissez les choses terrestres être terrestres. Laissez le divin être divin. Tout dans le domaine dans lequel ça a sa place. Dans les domaines dans lesquels ça a leur place, mais ça a sa place. Et alors vos dernières et mes dernières difficultés prendront également fin. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous le levons pour la prière. Oh Dieu fidèle, nous voyons, c'est ce jour, c'est cette heure que tu nous as préparé par ta grâce. Nous t'adorons. Nous louons ton merveilleux nom pour cela. C'est ainsi que dans la clarté, tu nous as exposé tout, tu nous as donné tout, tu nous as montré tout. Mais que même un insensé ne peut pas s'égarer, mon Dieu. Reçois la louange et l'adoration encore une fois, Seigneur, de nos cœurs et bouches à tous. À toi, nous t'adorons, toi, comme ton peuple. Reçois la louange, la gloire et l'adoration. Sois avec nous, Seigneur, encore pendant les réunions et encore ce soir, pendant la réunion, alors que nous allons tenir le souper et penser à ce que tu as fait pour nous, à ce que tu as fait pour nous de grand. Pensez à toi, nous t'adorons et louons ta grâce. d'éternité en éternité, dans le saint nom de Jésus. Amen.